Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur vous convient. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Seigneur, pour l'instant que tu nous donnes, pour le privilège que tu nous donnes de venir dans ta maison, de t'adorer, de te célébrer, nous te rendons toute la gloire. Ce moment est à toi, il est pour toi. C'est ton heure, l'heure de nous parler, l'heure de nous enseigner. C'est le temps de recevoir notre adoration, nos offrandes. Et nous sommes venus aujourd'hui dans ta maison pour t'apporter nos offrandes, pour t'adorer, pour te louer et pour écouter tes conseils. C'est ton heure, Seigneur Dieu. L'heure pendant laquelle tu nous transformes, tu nous parles et tu nous prépares à aborder les choses. À toi la gloire, à toi la louange, ô Jésus. À toi la louange, maître des lieux. C'est toi qui es le maître des lieux. Saint-Esprit, tu représentes ce Emmanuel, Dieu parmi nous. Saint-Esprit, tu es là. Tu es Dieu au milieu de nous. Conduis toutes choses dans ce que nous disons, ce que nous faisons. et glorifie le Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bénis un voisin, bénis une voisine. Il lui souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu, de Jésus. Amen. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. C'est ce nom prophétique qu'il a, Dieu au milieu de nous. Alléluia. Et Dieu est présent en ce jour par son esprit. Il est présent lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le célèbre. Et nous aimons notre Seigneur. Amen. Amen. On bénit le Seigneur pour Kodesh, croyeur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous bénissons Dieu. Cette semaine, nous avons eu de très bons moments. Alléluia. Ça a été glorieux dimanche dernier, mardi et mercredi, avec l'apôtre Kindé. Je n'ai pas envie de demander, mais j'ai envie de dire quand même, qui veut témoigner qu'il a été béni en acclamant le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a certains qui ont manqué les épisodes de la semaine. Il ne fallait pas, il ne fallait pas. Alléluia. Ça a été fort, ça a été puissant. On a été vraiment richement, richement bénis. Amen. Et puis vraiment, je l'ai dit dans la semaine, mais en réécoutant mon message du dimanche précédent, j'ai été encore édifié de voir comment le Seigneur nous conduit prophétiquement. Amen. Amen. J'avais dit ceci que, je dis, le Saint-Esprit nous a dit que dans le désert de longues attentes, il nous envoie des paroles de soutien, d'encouragement. Et j'avais dit ceci le dimanche d'avant, que lorsque vous passez par le désert des longues attentes, une des choses qui va vous aider à transformer ce désert des longues attentes en oasis, c'est le fait d'accepter la consolation, d'accepter les encouragements. Amen. Jésus a été soutenu par un ange. Moïse a été soutenu par ses deux amis. Au départ, il était en train d'affronter seul son adversité. Et quand Dieu a mis au cœur de ses compagnons de l'aider à soulever les mains, Moïse n'a pas dit non, que c'est à moi seul de mener la bataille. Et l'Esprit Saint est revenu là-dessus et dit, il faut apprendre à mes enfants, il faut accepter la consolation, il faut accepter le soutien de Dieu. Parce que souvent l'orgueil en nous fait qu'on refuse d'être encouragé, on refuse les motivations. L'orgueil en nous, ou le sentiment de déjà vu ou déjà entendu, fait qu'on rejette ce que Dieu est en train de nous dire. Amen. Il faut que vous compreniez ça. On rejette. On dit, oh bon, c'est vrai, ça fait 20 ans, j'entends ça, tu réussiras, tu vas ici, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Non, je suis fatigué de ces paroles. Il ne faut pas les rejeter. La Bible appelle le Saint-Esprit le consolateur. Amen. Donc le Saint-Esprit a une fonction de consolation. Amen. Une fonction pendant laquelle il vient et puis te dit, Yako, prends courage. Et quand il te dit, prends courage, il faut accepter. Il te dit, Dieu est vivant, va jusqu'au bout, prends courage, il faut être d'accord avec ça. Il faut accepter la consolation. Refuser la consolation, c'est refuser le Saint-Esprit. Refuser d'être encouragé. Parce qu'il y a des moments, il y a certains cœurs qui sont devenus imperméables aux paroles prophétiques, aux paroles d'encouragement, aux paroles qui t'adressent, qui t'annoncent des choses nouvelles. Dans ces paroles se trouve de l'énergie, de la puissance, de la force. Et il faut savoir les accepter. Et la parole disait ceci. Et puis, en même temps, alléluia, je ne m'attendais pas à ce que l'homme de Dieu allait aborder. Et vraiment, c'est prophétiser sur ce qui s'apprête à arriver. Et c'est ce que l'ange est venu dire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que l'ange est venu dire à Jésus? La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit que Christ ayant vu la joie qui lui était réservée dans le livre des Hébreux, a méprisé, même a minimisé la croix, la douleur, la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il voyait la joie qui allait venir après la souffrance. On dit, il a minimisé, il a méprisé l'ignominie, la honte, parce qu'il allait être exposé dans sa nudité. Jésus a abordé cela avec courage. Il a abordé avec courage et détermination le fait de savoir qu'il allait porter le péché de l'humanité.
Mais pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui est venu, qui l'a fortifié, qui lui a rappelé. Va jusqu'au bout, tu es prêt. La terre sera sauvée, les hommes seront sauvés. Regarde, vois les millions de vies devant toi. Vois ça. Et ce sont des paroles d'encouragement. Alléluia. Et puis en réécoutant aussi le message de l'apôtre Kindé, vous voyez, dans ce message, il dit, je suis l'ange que le Seigneur envoie. Alléluia. Dans ce message, il a dit ça, mais c'était sous l'inspiration. Il dit, je suis l'ange. Il dit, parce que l'homme, quand la Bible dit les anges, le mot ange signifie messager. Amen. Ça signifie le messager de Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas forcément des êtres qui sont auprès du Seigneur. Le mot ange, il faut, dans sa définition large, concerne les serviteurs de Dieu. Amen. Et il dit, je suis cet ange-là qui vient te donner la parole. Donc, ayant vu la joie qui t'est réservée, ayant vu les choses que Dieu va faire, tu dois être fortifié. Alléluia. Alléluia. Et ces paroles-là, nous devons les recevoir et nous devons bénir le Seigneur pour elles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites. La parole du Seigneur est venue pour dire que c'est cette année, en 2014, que les choses glorieuses allaient se produire dans ta vie. Est-ce que tu acceptes cette consolation? Ne dis pas, j'ai entendu ça en 2013, j'ai entendu ça en 2012. Est-ce que tu acceptes que c'est en 2014? La parole de Dieu est sortie pour dire, il est venu sur la notion de ce nombre 14. Et il a dit 14, c'est un signe prophétique. Nous sommes en 2014 et il faut t'attendre à cela. Est-ce que tu reçois cette consolation? Alléluia. Il a dit de la part du Seigneur que le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, Dieu, c'est vrai, Dieu agit pas de manière bruyante, silencieuse dans ta vie. Ça veut dire que son action va commencer très simplement, sans crier par-ci, par-là. Mais quelque chose va se passer. Est-ce que tu reçois cette consolation? Alléluia. Est-ce que tu acceptes que tes bras soient soutenus ainsi par ce genre de paroles? Amen. Amen. Je ne peux pas revenir sur tout le message, mais amen. La manière de dire, lorsqu'on a parlé de Élie, Élie est apparu, effectivement, quand vous lisez, dans la Bible, lorsqu'on présente un individu, on cite d'abord sa généalogie. On dit tant, fils, tant. Un tel, fils de, fils de, fils de, fils de. Quand on rencontre David, on dit David, fils d'Isaïe. Mais lorsqu'on découvre Élie, on dit Élie et puis on donne son village d'origine. Élie le Tishbite. Qui sont ses parents? On ne sait pas. Il a apparu brusquement avec la gloire de Dieu manifestée. Et l'homme de Dieu a dit, inspiré par le Saint-Esprit, que les choses de Dieu vont apparaître brusquement, fortement dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu reçois? Amen. Amen. Et Élie, dans sa course, a rattrapé ceux qu'il avait dévancés. Donc, ne t'inquiète pas de ce qui s'est passé avant toi. La grâce de Dieu qui vient, le ciel qui est ouvert, va te faire aller beaucoup plus vite. Alléluia. Et va te surprendre. Amen. Amen. Il dit, Élie a commencé à se réjouir, à célébrer et a dit au roi Akab d'aller se préparer avant même d'avoir vu la pluie. Et il est resté en prière, il est resté dans la communion avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il ait vu, son serviteur a vu cette petite paume. Élie avait une vision spirituelle. Et l'homme de Dieu est revenu sur le fait d'avoir la vision spirituelle. Pendant que son serviteur, qui regardait avec les yeux humains, ne voyait rien, Élie dit, va voir encore, va voir encore. Personne n'entendait le bruit de la pluie. Mais Élie dit, il se fait un bruit de pluie. Et la prophétie est là, sois attentif aux choses de l'esprit. Vois ce qui se passe dans le monde spirituel. Prépare-toi. Alléluia. Alléluia. Bref, reprends les CD, les DVD. Amen. Amen. Alors c'est cette parole-là, donc comme cette parole d'un ange qui vient pour t'encourager, pour te fortifier et te dire que certainement, sûrement, que cette année 2014, tu seras visité par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Osée, il est dit que la venue du Seigneur est plus certaine que le lever du soleil, que l'aurore. La venue du Seigneur est plus certaine. Alléluia. Amen. Mais une chose que je nous ai dit aussi, qui rentre donc dans prévenir notre thème, à nous, pour que vous compreniez que c'est Dieu qui orchestre les choses. C'est Dieu qui a voulu que ce serviteur vienne à ces moments-là de l'année, pour dire ces paroles-là de l'année. Nous devons sentir les choses spirituelles et nous préparer à cela. Amen. Amen. Nous ici, donc son message intervient toujours pour moi dans le même thème, dans cet esprit, dans ce thème qui est tirer le meilleur de nos temps d'épreuve, transformer les temps difficiles en temps glorieux, en temps de faveur. Alléluia. Et les temps difficiles, les temps d'épreuve se présentent de différentes façons, où on est confronté à différentes formes d'épreuves. Et chacune de ces épreuves transporte une évolution de notre personne. Amen. Chaque épreuve nous fait grandir, chaque épreuve nous construit, chaque épreuve nous prépare, chaque épreuve détient un trésor glorieux. Il ne faut pas seulement être là pour dire, ah, il faut que ma souffrance s'arrête. Il faut que tu comprennes ce que Dieu veut que tu établisses pendant le temps où la douleur est en train de persister. Amen. Il y a des choses que tu dois faire. Dieu ne te fait pas souffrir pour le plaisir de te faire souffrir, mais il permet à ce que certaines choses surviennent dans ta vie parce qu'il veut te préparer à sa gloire et à la manifestation de sa gloire. Alléluia. Donc la gloire de Dieu vient, certainement qu'elle vient. Et dans la parole de Dieu, lorsque la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la visitation de Dieu est annoncée, il y a une chose que Dieu demande, c'est de créer le chemin, c'est de disposer les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est-à-dire, chez Dieu, on ne reçoit pas avant de se préparer. On se prépare avant de recevoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut toujours se préparer. On ne réagit pas en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on possède déjà. On anticipe sur ce qu'on va recevoir et on crée les dispositions pour recevoir la suite. Amen. Celui qui ne se prédispose pas à recevoir la suite de ce que Dieu va faire risque de perdre son miracle. Pas que le miracle ne va pas venir, parce que la loi, le principe de la patience, ou bien le fait que Dieu a mis le temps dans le fruit, c'est-à-dire, quand la mangue va mûrir, elle va mûrir, que tu sois prêt ou que tu ne sois pas prêt. Quand la période où la femme va accoucher arrive, elle va accoucher, que tu sois prêt ou que tu ne sois pas prêt. Et l'avènement d'un enfant, l'arrivée d'un enfant peut être dramatique si tu ne t'y es pas préparé. Par contre, si tu t'es préparé, ça va devenir un bonheur. Donc la gloire de Dieu qui vient peut créer des problèmes à certaines personnes, parce qu'elle va venir certainement. Mais si tu ne t'y es pas préparé, au lieu de produire du bonheur dans ta vie, ça va plutôt produire de la tristesse, des frustrations. Et tu auras l'impression que c'est une autre épreuve. Oh, ce n'est pas une épreuve. Amen. Quelqu'un qui n'a pas préparé le trousseau de l'enfant, qui ne sait pas comment il va le nourrir, comment est-ce qu'il va l'entretenir, et subitement vient lui dire, voilà un bébé. Le bébé est plus un problème qu'une bénédiction. Alléluia. Donc une chose est d'attendre la promesse et une autre est de se préparer à la recevoir. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4, je l'avais cité la dernière fois, il est dit, Élisée a rencontré cette femme veuve. Il lui dit, Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Amen. Amen. L'huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente la gloire de Dieu. L'huile représente la réponse à tes prières. Cette femme-là souffrait depuis des années. Son mari était décédé. Elle avait à charge deux enfants. Et son mari est décédé en lui laissant des dettes. Elle devait rembourser ses dettes et c'était difficile. Elle n'avait rien. Et dans sa détresse, elle rencontre un homme de Dieu. Elle lui expose le problème. Et l'homme de Dieu lui dit, femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Amen. Là, l'homme, qu'est-ce que tu as à la maison? Quand la femme dit, j'ai un vase d'huile, on revient à l'épreuve 2. C'est-à-dire, amen. Dans l'épreuve de cette femme, vous avez la longue attente. Vous avez la deuxième épreuve parce qu'elle avait insuffisamment de biens pour répondre à ses besoins. Amen. Et on a le même principe. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est l'organisation qui vient avec. Amen. Donc, lorsque l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme ne dit pas, je n'ai rien. Vraiment, je vous ramène, réécoutez ce message, c'est très important. La femme ne dit pas, je n'ai rien. Elle dit, il me reste un vase d'huile. La deuxième chose qu'il lui demande, parce que Élisée sait, est convaincu que la gloire de Dieu va venir, il dit ceci, va chercher des vases et n'en prends pas en petite quantité. Alors la femme est partie chez ses voisines. Donc elle devait avoir un bon relationnel au moins avec les gens. Alléluia. Quelque part, elle s'était préparée à la gloire. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Parce que si tu es en palabre avec tous tes voisins, parce que tu es aigri, hein? Elle au moins, elle mange. Elle au moins, elles ne sont pas endettées. Toi, tu as plein de dettes, tu souffres. Ton mari était prophète. Et il les a bénis. Maintenant que ton mari est décédé, toutes tes copines, aucune de tes copines ne vient t'aider. Malgré sa situation difficile, cette femme avait un bon relationnel avec son voisinage. Si elle n'avait pas un bon relationnel, elle n'aurait même pas eu le courage même d'aller demander les vases. Et elle a pu en avoir en grande quantité. Parce que avec la moisson finale, c'est-à-dire lorsque les vases seront pleins, l'homme de Dieu va lui dire, va vendre l'huile, paye ta dette, et vit avec le reste. Ça veut dire que c'était beaucoup. Il y en avait beaucoup. Parce que la dette de cette femme valait ses deux enfants. Parce que le créancier venait chercher les enfants pour les traiter comme esclaves. C'est-à-dire, il estimait que ce que cette famille lui devait ne valait même pas un enfant, mais deux enfants. Ça veut dire que c'était beaucoup. Amen. C'était beaucoup. Et elle est partie donc chercher suffisamment de vases qui vont engranger suffisamment de moyens pour lui permettre et de payer la dette et de vivre avec le reste. Alors vraiment, elle avait beaucoup de camarades. Amen. Elle est partie. Ma copine, pardon, tu peux passer un récipient là? Pas de problème, ma soeur, prends. Tu veux un seul? Non. Si tu en as, donne-moi le maximum. 5, 6, ainsi de suite. Les gens l'ont donné. Elle est partie. Et le Saint-Esprit, comme je lui, pardon, représente le Saint-Esprit, la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu en fonction des vases qui étaient préparés. Alléluia. Lorsque le dernier récipient a été plein, elle a demandé à son fils, est-ce qu'il n'y en a pas encore d'autres? Il dit, il n'y en a plus. La Bible dit, et l'huile s'arrêta. Alléluia. Donc l'huile va s'arrêter, la gloire de Dieu sera limitée à la quantité, à ta capacité de réception de cette gloire. La gloire de Dieu est infinie, c'est-à-dire... Aussi longtemps que cette femme avait des vases, l'huile aurait continué à couler. La gloire de Dieu est illimitée. Amen. La gloire de Dieu qui arrive, la faveur de Dieu qui va te visiter n'a pas de limite. Elle va s'arrêter aux limites que tu vas lui donner. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. L'exhortation, le thème que nous allons aborder, la leçon que nous allons tirer aujourd'hui, va parler de la façon dont nous devons nous préparer à recevoir la gloire. Le ciel est ouvert, des choses ont été faites, Dieu va intervenir, mais il ne faudra pas que lorsqu'il intervienne, parce qu'il vient avec beaucoup de faveur, toi tu n'en retiennes qu'un tout petit peu. Parce qu'on t'a dit, va chercher le vase, tu peux pas prendre 2, 3, 4. Et tu viens, voici les récipients. Dieu remplit 4 vases seulement. Et la gloire s'arrête. Et toi seul après, tu t'arrêtes, tu dis, hey, jusqu'à quand? Mes épreuves vont-elles continuer? Les épreuves étaient finies. Il y a un moment, Dieu t'a visité avec l'huile. Dieu t'a visité avec la faveur. Mais les vases que tu as amenés étaient en trop petite quantité. C'est ton devoir d'aller les chercher. C'est ta responsabilité. Alléluia. L'homme de Dieu a prophétisé de la part du Seigneur, annonçant de grandes choses qui viennent. Mais sommes-nous prêts à les recevoir? Aujourd'hui, on va apprendre à se préparer à les recevoir. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller chercher des récipients physiques chez tes voisins pour dire, Dieu, j'en ai 300 dans ma maison, que ta gloire vienne. Non, la gloire ne va pas venir, ce n'est pas cette quantité, ce n'est pas de l'huile qui va couler comme cela. Elle va venir d'une autre manière, elle va venir d'une certaine autre façon. Et comment s'y préparer? C'est ce à quoi veut répondre l'enseignement de ce jour. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Certainement que Dieu va te visiter après cette période de longue attente. Il y a longtemps que tu attends le mariage, il y a longtemps que tu attends les enfants, il y a longtemps que tu attends une direction au niveau du ministère et rien ne semble se réaliser, que tu attends une direction en ce qui concerne ta vie professionnelle. Il y a longtemps que tu attends certaines choses et les choses ne semblent pas bouger. Et pendant que tu étais dans la détresse, Amalek t'a attendu, t'a attaqué, tu as appris à triompher d'Amalek. Tu as appris à chasser Amalek. L'ange est venu, la prophétie est venue te dire, Dieu va le faire, Dieu est vivant. Ça t'a boosté, ça t'a encouragé. Maintenant, la gloire va venir. L'épreuve de longue attente finit toujours par finir. Alléluia. Il y a un moment donné, le temps d'attente est fini. Et on passe au concret. La prophétie est venue te dire, le temps des longues attentes est fini. Alléluia. Alléluia. Alors, réussir l'épreuve des longues attentes, c'est tenir jusqu'à ce que le temps arrive, mais surtout préparer les vases. Dieu te donne du temps d'attente pour que tu te prépares, parce que ce qui vient sera fort. Et pour illustrer cela, je vais te donner l'exemple de Anne. Anne a attendu. Elle est passée par un désert de longues attentes parce qu'elle attendait un fils et elle n'avait pas cet enfant. Mais lorsqu'elle allait recevoir le fils, en fait, avant de recevoir le fils, elle a canalisé, c'est ce que j'appelle organiser. Elle dit à Dieu, voici ma promesse, c'est un enfant. Si tu me le donnes, voilà ce qu'il sera. C'est quoi le vase ici pour Anne? Le vase, le fils, c'est un peu comme l'huile. C'est la gloire qu'elle attend. Amen. C'est la promesse qu'elle attend. Le vase, c'est dans quel cadre elle met Samuel. Vous me suivez? Dans quel cadre? Alléluia. Si j'attends le mariage et le temps de longue attente tire à sa fin, Dieu veut me répondre. Dans quel cadre je me marie? Pour Dieu, le mariage, ce n'est pas juste la célébration. Avoir un enfant, dans le cas de Anne, pour une femme qui est... C'est pas juste avoir l'enfant naît et puis tu es content. Non, un enfant qui naît, c'est une vie. L'accomplissement d'une promesse, c'est le démarrage d'une nouvelle dimension. C'est le démarrage d'une nouvelle vie. Il faut canaliser la chose. Il faut avoir une certaine vision. Et Anne dit, lorsqu'il viendra, il te servira. Donc déjà, elle sait dans quel endroit son enfant va aller à l'école. Il va aller à l'école chez le prophète, chez le sacrificateur Élie. Il va rester chez lui. Donc, elle a déjà vu sa vie scolaire. Chaque année, elle lui amène des vêtements. Elle a déjà organisé l'avènement, l'arrivée de son enfant dans son esprit. L'enfant ne va pas venir et puis elle dit, bon, maintenant, que dois-je faire? Où va-t-il? Pourquoi Dieu a tardé autant avant de me donner cet enfant? Si ton mariage a autant tardé, c'est qu'il est spécial. Alléluia. Alors, il ne peut pas arriver comme tout autre mariage. Avant qu'il arrive, qu'est-ce que tu fais? Ton mariage a quelle particularité? Dans quel cadre est-ce que tu reçois ce mariage? Quelle est sa spécificité? Ou bien pour toi, ouf, le jour à la mairie, enfin, je suis marié. Regardez mon doigt. Alléluia. Et après, où va ce foyer? Tu es dans le désert de longues attentes pour que tes de situation matérielle et financière meilleure. Dieu t'a parlé de financement pour certains projets. Ça, c'est ton désert de longue attente. Et là, subitement, tu vas avoir du travail. Si ton travail a autant tardé, si ton emploi, l'arrivée de ton emploi a pris autant de temps, c'est que ton travail est spécial. Et ça, je vous l'ai dit les jours précédents. Alors, quelle est sa spécialité? Où dois-tu travailler comme tous les autres travailleurs? Ou vas-tu travailler avec un autre esprit? Avec une mentalité différente? Les vases qui reçoivent l'huile, alléluia, les vases qui reçoivent l'huile, qui reçoivent la grâce, c'est la mentalité. Le vase, c'est la mentalité. Amen. Quand Dieu te parle de vase, il parle de ton esprit. Il parle de la mentalité avec laquelle tu t'apprêtes à recevoir la gloire annoncée. Quel est ton état d'esprit? Comment est-ce que tu vas travailler? Tu attends un enfant. Comment tu vas l'éduquer? Quel est son chemin? Lorsque Élisabeth et Zacharie attendaient, ont été annoncés en ce qui concerne Jean-Baptiste, ils savaient déjà que l'enfant allait être prophète. Déjà, il y avait une forme de canalisation. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un vase, c'est la façon dont l'huile qui arrive, la grâce de Dieu qui vient, est canalisée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu veut te préparer à cela maintenant. Je vais parler de 4 points. Je vais essayer d'être rapide. Je crois que j'ai 3 points. Et dimanche prochain, je ferai le dernier. Amen. 4 choses que tu dois faire. 4 choses pour lesquelles tu dois te disposer pour que la promesse, lorsqu'elle arrive, ne soit pas perdue. Et l'avantage, c'est que lorsque vous vous disposez, même suffisamment tôt, vous pouvez raccourcir votre désert de longue attente. Oui. Une bonne préparation peut réduire le temps des attentes. Une bonne préparation peut accélérer l'arrivée de ta promesse. Amen. Amen. Alléluia. Parce que c'est vrai qu'un enfant naît à 9 mois, mais il peut naître aussi à 8. On peut même quelque part, il sera bien. Alléluia. Alléluia. Donc, le temps fixé est une période. Donc, si tu estimes que tu as trop souffert, fais en sorte que dans la période fixée, toi, tu sois au début, quoi. Que tu n'attends pas la fin de la période fixée. Amen, amen, amen. Donne un bon amen.
Amen.
Alléluia. Et dimanche dernier aussi, je voudrais faire lire ce texte, Ésaïe chapitre 54, verset 1. Il est dit, à partir du verset 1, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Amen. Donc ici, on voit le Seigneur annonce à une femme stérile, à une femme qui n'arrive pas à produire. Donc Dieu annonce à quelqu'un qui n'arrive pas à produire du travail, à celui qui n'arrive pas à avoir des entreprises. Tout ça, c'est peut-être des symboles de la stérilité. Tu es stérile quand tes efforts ne donnent pas de fruits. Tu es stérile quand tu travailles et tu ne moissonnes pas. Tu es stérile quand tu attends quelque chose et que la chose ne vient pas. Tu es stérile quand tu as des projets qui n'arrivent pas à voir le jour. Et plus cela tarde à se manifester, plus tu peux considérer que tu es dans un désert de longue attente. Maintenant, Dieu dit ceci, femme stérile, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir des enfants, mais déjà prépare-toi. Il dit, réjouis-toi d'abord, fais éclater des chants d'allégresse, des cris de joie, etc. Amen. Et c'est au verset 2 qu'il sera beaucoup plus précis par ce qu'il attend par la préparation. Et c'est là les clés de la préparation. Comment est-ce qu'on réussit la préparation? Au verset 2, il dit ceci, élargis l'espace de ta tente. Alléluia. On va expliquer ce que ça signifie tout à l'heure. Élargis l'espace de ta tente. Celui qui s'attend à des entreprises, qui sait que Dieu veut le conduire, Dieu va te conduire dans une dimension particulière dans ton travail, il y a une chose que tu dois faire. Tu as entendu la prophétie, la gloire de Dieu vient, le ciel va s'ouvrir, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Dieu dit, pour que ce qui vient du ciel arrive à toi, élargis d'abord l'espace de ta tente. Alléluia. Dis un voisin, élargis l'espace de ta tente. Ça signifie quelque chose de bien précis. Amen. Deuxième chose, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Donc la deuxième chose que tu dois faire, après avoir élargi l'espace de ta tente, tu dois faire quoi? Déployer tes couvertures, les couvertures de ta demeure. Amen. Troisième chose, il dit, ne retiens pas, allonge tes cordages. La troisième chose à faire, c'est que tu dois allonger tes cordages. Amen. Et la quatrième et dernière chose qu'il dit, est affermir tes pieux. Voici les 4 choses donc, qui doivent précéder la manifestation de la gloire. Amen. Élargis l'espace de ta tente. 2 Rois chapitre 4, la femme a fait cela. Pour aller chercher autant de vases, elle a d'abord appliqué le principe, elle a élargi l'espace, elle a élargi, elle a vu grand. Si les vases qu'elle a obtenues ont été suffisants pour rembourser sa dette et prendre sa vie en charge, l'école des enfants, leur vie en charge, tout le reste de leur existence, c'est qu'imaginez, moi je crois que franchement, ce qu'elle a bâti, c'était une usine d'huile. Ça veut dire quand le prophète lui a dit, n'en prends pas en petite quantité, sérieusement. Elle n'a pas pris en petite quantité. Payer la vie des enfants et vivre avec le reste. Mais elle a dépouillé ses voisines de leur vase. Donne-moi. La dame a dit, non, il reste une petite bouteille. Elle dit, mais petite bouteille, je prends, donne. Elle a pris autant qu'elle pouvait. C'est ce qu'on appelle la notion, c'est-à-dire, elle a vu loin. L'homme de Dieu ne lui a pas dit la quantité de vase. Dieu ne te dira pas la quantité exacte. Ça va dépendre de toi. On ne te dit pas la limite de ta tente. C'est à toi d'élargir. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, tu dois déployer les couvertures. La troisième chose, tu dois allonger tes cordages. La quatrième chose, tu dois fermer tes pieux. Amen. Ce sont des choses différentes. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, j'élargis l'espace de ma tente. Alors, élargir l'espace de sa tente, je dis ceci, c'est redimensionner sa vision de la vie. Amen. Celui qui élargit l'espace de sa tente, c'est une personne qui redimensionne sa vision de la vie. Pour recevoir la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, en fait, ou la manifestation de la promesse, c'est quelque chose de virtuel, c'est pas palpable. Mais lorsqu'elle va venir, elle va avoir une incidence sur des aspects pratiques de notre vie. Amen. En termes généraux, quand la gloire arrive, nous-mêmes dans notre vie, on se sent vraiment bien. On sent la présence de Dieu. On sent la grâce de Dieu avec nous. On sent la faveur de Dieu dans notre maison. On sent dans notre vie un changement intérieur. Mais maintenant, cette bénédiction, cette faveur qui se manifeste en nous, ne va pas rester à un niveau de sensation. Toi, tu es content dans ta chambre. Ouh, Dieu est là. Ouh, on dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu cries dans ta chambre. Ouh, je sens sa présence. Il y a des chrétiens qui, malheureusement, se sont... reste à ce niveau de sentir l'onction occulte. La présence de Dieu, Dieu se limite à ça. Quand on dit l'onction est là, Dieu est là. Yeah! Et la grâce qu'ils ont reçue au temple n'a aucune incidence sur leur vie professionnelle, aucune incidence sur leur vie familiale, rien. Quand tu es sorti du temple, après avoir tremblé, fait un salto, double salto avant, rien, revenir, tout ça, on dit non, Dieu t'a visité. Dieu t'a visité. Écoute, Dieu n'a pas envie de se limiter aux quatre murs de l'église. Cette même visitation, on doit la voir au niveau du travail. Cette même visitation, ton mari, ton conjoint doit la sentir que Dieu t'a visité. Pourquoi certaines personnes, la gloire de Dieu ne s'arrête qu'à des manifestations et des sensations? Parce que dans leur esprit, ils n'ont jamais élargi l'espace de leur tente. C'est-à-dire, ils n'ont pas pris le temps de voir que Dieu aussi, l'onction qu'il ressent physiquement, a une incidence sur le travail, sur l'intelligence, sur la manière dont tu composes quand tu es en devoir, sur le moment où tu vas faire ta soutenance par rapport à ton doctorat. Tout ça, la gloire de Dieu vient influencer. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une manifestation où on tremble dans la salle. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui s'attendent à rien d'autre qu'à des présences au sein de l'Église. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent rien. Donc, c'est comme si Dieu, il est entre les quatre murs et puis après, dans ta vie de tous les jours, il n'a pas son mot à dire. Parce que de la manière dont tu trembles, l'onction est sur toi à l'église ici. Là, quand tu arrives au bureau, tu interdis à l'onction, tu dis non, là je suis au travail, il ne faut pas l'onction ici. Mais Dieu n'a pas envie de te faire trembler là. Mais cette onction qui t'a fait trembler, qu'est-ce qu'elle va faire dans ton travail? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va produire? Elle t'a visité pendant qu'on était en train de prier. Mercredi dernier, en finissant le séminaire, il y avait une telle présence de Dieu dans cet endroit. Et plusieurs fois, Dieu nous a visités. Mais ce n'est pas pour des visitations. Juste, tu crois que Dieu n'a rien à faire, quoi. Et il est content, il vient. Allez, viens. Ah, tremble, tremble. Ouais. Tu as senti ma gloire. Tu m'as senti. Tu dis, Seigneur, je t'ai senti. Dieu dit, c'est fini. À la prochaine réunion, tu vas me sentir encore. Et puis quoi? Donc c'est fini comme ça, on tremble et puis on va à la maison. C'est fini, c'est-à-dire on a tremblé, on est content. Dieu dit, tu es content? À une prochaine réunion, tu me verras. 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 Je ne comprenais pas pourquoi la gloire de Dieu n'allait pas plus loin. Parce que je suis convaincu que les gens sont visités par le Seigneur. Je suis convaincu que Dieu les touche. Mais Dieu me dit, en fait, c'est parce qu'ils ne m'ont jamais imaginé dans leur vie professionnelle. C'est parce qu'ils n'ont pas d'idée de ce que je peux faire dans leur famille, dans leur foyer, dans leur vie de tous les jours. Le vase qu'ils m'ont donné, c'est là-dedans que je suis rentré. Si tu as amené un seul verre à Dieu, lui, il va s'arrêter. Comme tu l'as vu qu'il agit et que lui, son travail, c'est te faire trembler. Il te fera juste trembler. C'est le récipient que tu as amené qu'il remplit. Après, on te demande, y en a-t-il d'autres? C'est fini. Comme c'est fini, lui aussi va s'arrêter. Et tout le reste où tu n'as pas imaginé Dieu, où tu n'as pas pensé à sa présence, où tu n'as pas anticipé son action, ne sera pas visité. Et tu te diras encore, je suis éprouvé, je souffre dans la vie. Or, Dieu t'a visité, mais tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas compris que lorsque l'onction commençait à te visiter, lorsque la présence de Dieu était agissante dans l'église, elle était bien plus forte que les sensations occultes. Elle était capable d'aller beaucoup plus loin. Mais c'est toi qui l'as contraint à une simple manifestation sensationnelle dans le temple. Dis à un voisin, redimensionne ta vision. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut élargir l'espace de ta tente. La tente, c'est la tente du Saint-Esprit. Mais Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Stérile, je vais te visiter. 2014, je vais te visiter. Mais s'il te plaît, mon fils, élargis, élargis. Vois-moi plus loin. Alléluia. Vois-moi plus loin que ça. Élargis, permets à ce que je touche tout. Aie une vision, élargis l'espace de ta tente. Redimensionne ta vision de la vie. Amen, amen. Alléluia. Et moi, j'ai différents aspects. Tu peux élargir l'espace de ma vie spirituelle. Comment je me vois spirituellement? Je peux élargir ma tente dans mes pensées. Élargir l'espace de la tente, c'est le domaine du virtuel. Parce que l'espace de la tente, ce n'est pas la tente même. C'est l'espace où tu vas déposer la tente. Donc, il dit cet espace-là, vois-le grand. Élargis seulement. Prends le plus large. Prends beaucoup d'espace. Alléluia. Alléluia. Alors, vois Dieu rêve en ce qui concerne ta vie spirituelle. Et des rêves. Vois-toi dans ta communion avec Dieu. Imagine cela dans ton esprit. Prépare-toi à ces choses-là. Prépare-toi à voir la gloire de Dieu. Prépare-toi. Le Seigneur vient bientôt dans ta vie. Amen. Il est déjà présent. Mais sa gloire ne va pas tarder à te visiter. Sois prêt. Vois loin. Alléluia. Alléluia. Je te dis tout de suite comment ça fonctionne aussi. Sur le plan de la vie conjugale, vois. Une vision. Élargis l'espoir de ta tente. Amen. Comment tu vois ton mari? Comment tu le vois ton mari dans 20 ans? Est-ce que tu as pris le temps même de penser à ça? Quand tu penses au mariage, tu penses à quoi? Une maison, deux voitures, une pour le mari, une pour toi. C'est tout le vase que tu viens donner à Jésus. Lui, il va s'arrêter là. Lui, il s'arrêtera là. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, et c'est vrai, en fait, c'est ce que les Seigneurs me disaient, n'ont pas de vision à long terme pour leur couple. La femme ne voit pas son mari. Elle n'imagine rien pour ce futur, pour son futur. Pour elle, on gère le quotidien, quoi. Le mari aussi regarde sa femme sans penser à leur vie. Comment vous voyez dans deux plus tard? La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 30, en parlant de la femme vertueuse. Regardez comment elle voit son mari. Elle anticipe les choses. Elle regarde. Elle voit loin. Elle déploie un rêve. Anne, pour que Dieu lui donne Samuel a rêvé le futur de l'enfant qu'elle ne portait pas encore. Et quand elle a rêvé, elle a su qu'il sera prophète. Tu as marié quelqu'un. Qui est-il? Qui est-elle? Où ira-t-il? Où ira-t-elle? Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Où ira-t-il? Où ira-t-elle? On va où? Amen. Sur le plan professionnel, le Saint-Esprit que tu as reçu, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Tu marches avec Jésus. Jusqu'à où pourrez-vous aller? L'onction va s'arrêter là où tu vas l'arrêter. Amen, amen, amen. Mais ce rêve-là ne doit pas être simplement une image, ce n'est pas une imagination personnelle. C'est trop compliqué. La première chose, j'ai voulu que d'abord tu comprennes que tu dois laisser le Saint-Esprit te donner ses rêves. Parce que les rêves ne viennent pas de l'homme. C'est Dieu qui les a planifiés. Amen. Mais il veut que tu sois disposé à aller les saisir. Actes chapitre 2, verset 16, un texte que j'aime beaucoup, dit ceci. Mais c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Amen. Ça, c'est le ciel ouvert encore. Dieu dit, je ferai paraître quoi? Des prodiges dans le ciel et sur la terre. On verra des miracles. Mais les miracles et les prodiges que Dieu va produire sur la terre sont fonction de ce qu'il a dit avant. Le Saint-Esprit va te donner des songes. Le Saint-Esprit donne des visions. Beaucoup de croyants limitent le Saint-Esprit au parler en langue et comment dirais-je, au don de guérison. On dit, tu as le Saint-Esprit, oui, oui, ma main tremble. J'ai touché les malades. Le Saint-Esprit fait ça, mais il va au-delà. Amen. C'est parce que tu as vu que quand on a l'onction, la main tremble, y compris pour les malades, que l'onction s'est arrêtée là. Si tu voyais autre chose, l'onction allait continuer. L'huile allait continuer. Amen. Et qu'est-ce que tu dois voir? Pour chaque domaine de ta vie pour lequel tu as attendu longtemps, il y a une vision. Et c'est le Saint-Esprit qui la donne. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, dis au Saint-Esprit, de la même manière qu'on demande le baptême dans le Saint-Esprit. Mais quand les gens demandent le baptême dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent parler en langue. Ce qui est bien. Mais c'est le même Saint-Esprit qui est répandu, qui va faire des prodiges en haut dans les ciels et des miracles sur la terre. C'est le même Saint-Esprit. C'est notre Dieu puissant qui agit. Alors il faut prier. Prie Dieu. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi ce que tu as pour cet homme. Montre-moi ce que tu as pour cette femme. Cher monsieur, est-ce que tu as une vision pour ta femme? Les femmes aussi. La dernière fois, j'ai dit ça dans un message. Il y a des femmes qui sont parties faire parler à leur mari. Est-ce que tu as un rêve pour moi? Dis-moi. Pardon, il faut le laisser. Tout le monde ne sait pas ça. C'est là, c'est pourquoi on enseigne la parole de Dieu. Amen. Si ton mari ignorait cela, il ne faut pas le juger. Est-ce que toi-même aussi tu savais? Donc, on est tous ignorants et on vient dans la maison de Dieu pour apprendre. Je n'ai pas dit d'aller juger, de condamner autrui. Ce que je dis, c'est de dire, chérie, on doit rêver. On doit se voir, on doit voir. Il faut que Dieu nous parle. Que sera notre couple dans 20 ans? Où veux-tu nous amener? Amen. Amen. Il faut le voir, il faut anticiper. Et puis, comme ça, vous allez voir. Dieu va vous montrer. Ça paraît simple. Ce n'est pas que, c'est pas des choses forcément dont vous serez pleinement conscient. Est-ce que je peux vous dire? Mais c'est un peu comme si dans votre esprit, il y a un redimensionnement. Vous commencez à être préparé à quelque chose de nouveau. Alléluia. C'est nécessaire pour qu'il y ait des prodiges dans le ciel et les miracles sur la terre. Ça va avec le ciel qui est ouvert. Amen. Dis à un voisin, il faut rêver. Ce qui empêche souvent le rêve, c'est les réalités quotidiennes. On est tellement limité ou bien contraire à la réalité de notre vécu quotidien qu'on s'interdit d'avoir des songes et des visions. Alors quand tu t'interdis, Dieu n'arrive même pas à te montrer quelque chose. Parce que même s'il te montre un jour en songe que tu es quelque part, tu as dit mon frère, ça c'est parce que j'ai trop regardé la télévision. Parce que ta conscience a interdit ça. Tu dis, je suis moi, mes parents sont pauvres, je suis dans une famille pauvre, on ne sait pas où on va aller, donc je gère le quotidien. Et quand le Saint-Esprit veut te montrer, attention, tu pars courir à les nations. Le magasin que Dieu veut te faire enfanter là va être ouvert dans toutes les grandes rues. Tu seras à New York, tu seras sur les Champs-Élysées. Bon, quand tu... donc dans un songe, tu vas te voir en train de visiter un magasin. Dans le rêve, l'esprit veut te dire que c'est ton magasin. Mais ta conscience même dit, un petit qui est né dans un petit village ici, qui n'a pas fait de hautes études. Ça, c'est parce que hier, j'ai regardé un film où on a parlé de la rue des Champs-Élysées. Ça peut pas, c'est pas possible. Et tu rejettes cela. Élargir l'espoir de Satan, c'est de savoir et d'être confiant que le grand Dieu avec lequel nous marchons est capable de nous amener au-delà. Et il va nous amener au-delà de nos limites. Amen. Je n'ai pas dit d'aller convoiter. Je n'ai pas dit de regarder, d'imaginer. Je dis, la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit et c'est le Saint-Esprit qui donne les songes. Je dis seulement, prie pour que Dieu te parle. Prie pour que Dieu dispose ton esprit. Prie, ce n'est pas quelque chose de physique d'abord, c'est juste dans la tête. C'est ce qui va te donner la connexion entre les choses extraordinaires qui sont dans le ciel. C'est ce qui va permettre aux choses extraordinaires du monde invisible de commencer à descendre dans le monde visible. C'est ta disposition intérieure qui va chercher l'infiniment grand et qui va le ramener sur la terre. C'est une disposition interne. Toi, tu es le canal par lequel Dieu passe pour amener l'impossible ou l'invisible dans le visible. Mais c'est en fonction de l'espace que tu donnes au niveau de ton esprit. Et qui donne cet espace-là? C'est le Saint-Esprit. Prie-le, demande-lui, sois prêt et tu recevras certainement certaines choses. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12, verset 2, je l'ai cité tout à l'heure, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Jésus voyait le futur. Il voyait la gloire qui lui était réservée. Et c'est parce qu'il avait cela en vue qu'il était fort. Il faut voir ce qui arrive après. Amen. Si tu n'as aucune visibilité de ce qui arrive après, les souffrances seront pénibles parce que tu n'en sais pas le fruit. Si tu ne rêves pas, ayant vu la joie qui lui était réservée, ce n'était pas une joie réelle. Ce n'était pas une joie qu'il vivait dans son quotidien présentement. Là, c'était de la souffrance. En ce moment, Jésus connaissait le mépris, le rejet. Mais il a vu, il a anticipé qu'il y a une gloire qui arrive. Il y a la joie qui vient. Et ça lui a donné une certaine attitude. Alors, élargir l'espace de Satan, c'est cela. C'est élargir. Vois pour tes enfants. Demande à Dieu, c'est qui est mon fils? L'enfant qui vient là, il est qui? Il va où? Dispose ton esprit. Peut-être que tu n'as pas entendu une voix audible. Ma fille, voilà ton fils, je l'ai choisi. Il sera le PDG de toute la plus grande... Non. Le plus souvent même, on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop ce qu'on reçoit. Mais ce sont des choses diffuses dans notre esprit qui ont l'air sans cœur ni tête. C'est-à-dire, on ne sait pas où ça va. Ça a l'air diffus, c'est du flou. Mais ce flou-là, dans la vérité, il n'est pas flou. Un rêve, il peut être souvent très confus dans sa forme. Mais il est le moteur spirituel de l'accomplissement d'une vision. Les songes de Joseph, quand tu les prenais en l'état, tu n'en comprenais rien. Tu vois, il a sa gerbe, 12 gerbes se prosternent devant. Mais là, ça parlait de l'Égypte. Quand il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles, ça parlait de son futur. Mais c'était confus. Mais n'empêche, Dieu lui a donné un songe. Amen. Lorsque l'évangile devait arriver aux païens, Pierre était assis. Jésus leur avait dit, allez par tout le monde et faites de toutes nations des disciples. Mais leur conception limitait l'action du Saint-Esprit. Quand ils entendaient Jésus dire, allez dans les nations, eux ce qu'ils entendaient, allez chercher les juifs qui sont dans les nations. Puis parlez-leur. Alors, Pierre était couché. C'est-à-dire pour que ce qui est prévu dans le ciel arrive sur la terre, il faut qu'il y ait un rêve. Pierre est couché et Dieu lui donne une vision. Dans la vision, il voit des animaux que les juifs considèrent comme étant impurs. Et Dieu lui dit, mange-les. Pierre répond, moi je ne mange rien de ce qui est impur. Dieu dit, mange. Et puis, la vision s'est retirée. Pierre n'a pas compris. Et à peine s'est-il relevé? On lui dit, il y a des gens qui te cherchent. Et il va voir, et ces personnes-là vont l'emmener jusque dans la maison d'un non-juif. Et c'est là que le songe va avoir tout son sens. Donc, les songes dont je suis en train de parler ne sont pas des choses où vous allez dessiner, tu vois, ta villa dans 50 ans. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit qui donne. Mais il faut avoir un esprit juste disposé. Il ne faut pas interdire l'impossible en toi. Il faut laisser le rêve prendre place. Alléluia. Alors, il y a des choses que tu vas voir très confusément, mais quand elles vont se réaliser, tu comprendras. Amen, amen, amen. 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 La tente dans laquelle nous sommes, mais je l'ai vue. À l'époque, pour moi, c'était juste un lieu, mais c'est ce qu'on fait, où on allait adorer Dieu. Mais je venais avec l'équipe d'adoration qu'on appelle dans sa présence, et puis je leur disais, on va adorer sous une tente. Et j'enseignais longtemps sur le relèvement de la tente de David. Je dis tout ça. Mes amis, dans les faits, on habite sous un chapiteau, on a construit sous un chapiteau. Dans les faits, pour nous, pour moi, ça a été un accident. Dans les faits. C'était rêvé, mais j'ai oublié le rêve. J'en parlais à des réunions, mais je ne savais pas que la machine s'était mise en marche. Et ce sont des circonstances qui vont créer ça. Pourquoi on est sous un chapiteau? Moi, dans le life, là, dans la vie, ce n'était pas un choix délibéré. C'est parce que, aux environs de 2008-2009, je voulais déjà qu'on quitte l'hôtel communal. On avait déjà acquis un terrain. Et j'ai ressenti une pression dans mon cœur que la période électorale qui arrive peut être compliquée. Et si le maire change, rien ne nous dit qu'on nous autorisera à rester à l'hôtel communal. Or, le terrain qu'on a acquis vers les Vallons et le bâtiment que je rêvais construire, qui n'avait rien à voir avec un chapiteau, le bâtiment qu'on voulait déposer là-bas, c'était quelque chose de très beau, on a fait des plans, tout ça. Mais le bâtiment qu'on voulait construire ne pouvait pas être construit entre 2008 et la période des élections. Un moment, ils avaient fait ça en 2009. Donc, je me suis dit, construisons quelque chose de provisoire. En attendant, pour qu'on quitte l'hôtel communal, on vient dans le bâtiment provisoire. Et puis maintenant, du bâtiment provisoire, on va commencer la construction sur notre terrain. Donc le terrain sur lequel nous sommes, au départ, on l'a juste loué. On est parti voir le propriétaire, on dit non, on loue pour 5 ans. Il dit si c'est 5 ans, ne construisez pas en dur. On dit oui, on a signé un contrat pour dire que ce qu'on amène, c'est du précaire. Et il lui a dit, on n'a qu'à bien signer, il a rempli un document qui nous interdit. Et on était d'accord, parce que pour moi, c'était clair. Mais vous savez, Dieu conduisait les choses pour réaliser le rêve. Et le rêve disait quoi? Que j'allais, on allait l'adorer sous une tente. Ah, Dieu est fort. Amen. Et on a commandé le chapiteau. Je dis, on veut un chapiteau de 1000 places. On nous a conseillé quelque chose. Donc, le chapiteau est venu. Mais, comme j'aime faire, je dis, même si tu veux utiliser quelque chose pour 5 ans, il faut bien le faire. Parce que j'aime ce verset de la Bible où l'Abbé dit, regardez la lie des champs, regardez la lie des champs, les plantes, les herbes. Il dit, ils sont mieux vêtus que Salomon. Pourtant, le soir, ils seront détruits. Alors, je me dis, si une plante que Dieu va détruire l'après-midi, il la revêt mieux que le grand roi Salomon, multimilliardaire, si moi aussi je fais quelque chose, même pour quelque temps, je dois bien faire. Amen. Alléluia. Or, je ne savais pas que c'est cette mentalité de bien faire, même pour le provisoire, qui allait faire que le propriétaire même, tellement il allait être content de voir le bâtiment. Alléluia. Donc, pour ne pas que le provisoire soit laid, on a pris donc l'architecte. Amen. Et lui aussi, c'est un rêveur comme moi. Alléluia, nous donne un peu fou là-dessus. Donc, on dessine et puis c'est joli et ça coûte cher, mais c'est juste pour 5 ans. On dit, c'est pas grave, allons-y. Même si après on doit casser, mais Dieu a vu qu'on l'aime. Et que même pour 5 ans, on se dit que si on vient dans sa maison, on doit faire quelque chose à sa gloire. Alléluia. Mais quand le propriétaire m'a vu, après 2 ans de construction, on devait construire en 2 mois. Amen. Dieu va devenir son cœur. Il va dire, bon, le terrain là, prenez-le. Et dernièrement, l'année dernière, nous avons fini de l'acheter. Alléluia. Et ce n'est qu'après tout ça que je m'assois et je me souviens que j'avais vu qu'on adorait sous une tente. Ce n'était pas quelque chose de calculé. C'est ce que je vous apprends comment fonctionne le rêve. Le rêve, ça peut être une chose confuse. Ne cherchez pas à ce que ce soit trop précis. Mais seulement soyez disposés parce que c'est le rêve là, c'est la matière avec laquelle le Saint-Esprit, le fait que toi tu aies rêvé, c'est cette matière là qui va commencer à tout disposer. Même tes petites erreurs, ce que tu penses être des erreurs ne seront plus des erreurs. En fait, ta vie sera orientée et à la fin d'une histoire, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est tout ça là que tu avais vu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. 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 Amen. Et je finis avec ça. Donc, élargis l'espoir de ta tente. Donc, redimensionne ta vision de la vie à tout point de vue. Deux, il dit maintenant, déploie tes couvertures. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais déploie tes couvertures. Il y avait quoi les couvertures? Alors, couverture. Bon, je ne sais pas si vous pouvez projeter, mais j'ai une image d'une tente. Si tu veux, c'est la couverture, en fait, c'est la tente même. Parce que la tente, ce n'est pas plusieurs pièces. La tente, en fait, c'est une grosse couverture qu'on a étendue. Amen. Ou deux grandes couvertures qu'on étend. Alléluia. Voilà, donc vous avez une tente. C'est une couverture. Donc, quand on dit élargis ta couverture, ou comme on dit déploie ta couverture, en fait, même, c'est la tente même. Mais mon but n'est pas trop la description de la chose. Mais le mot couvrir parle de protection. Alléluia. Il dit, déploie tes couvertures. Amen. Déploie tes couvertures. Ça parle de protection. Ça parle de protection. J'ai intitulé cela, la deuxième chose que vous devez faire pour vous préparer à recevoir la promesse pendant votre désert de longue attente, c'est donc déploie tes couvertures ou prépare-toi aux responsabilités attachées à la nouvelle dimension dans laquelle tu veux entrer. Amen. Alléluia. Tout élargissement de tente, tout rêve, toute grande vision entraîne aussi une grande responsabilité. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Ah, je pensais que tu allais mieux donner un bon amen. Mais tu comprends pas encore. Tu comprends pas? Amen. Tu veux te marier, tu attends depuis longtemps un mariage. Mais un mariage entraîne aussi une responsabilité. La responsabilité d'être une épouse. Dieu ne donne pas en tant que tel le mariage. Dieu va te rendre une épouse. Dieu va faire de toi un mari. Dieu n'est pas influencé par les titres. Je suis marié. Et puis quoi? Couvrir, c'est protéger, c'est assumer, c'est... Je résume cela pour aller rapidement, c'est prendre ta responsabilité. Par exemple, la femme va couvrir son mari, elle va jouer son rôle, l'homme va faire ainsi de même. Alléluia. Il faut que vous compreniez ça, c'est très important. Si je rêve une grande église, si je veux gagner beaucoup d'âmes, je dois commencer à élargir, comment est-ce que on va encadrer les gens? Comment est-ce qu'on doit traiter ceci? Si je veux me marier, faut arrêter seulement de voir un rêve où tu te vois à la mairie en robe blanche. Arrête ça, Dieu n'est pas dedans. J'ai dit que Adam et Ève, ils n'avaient pas de robe blanche. Les seuls témoins, c'étaient les animaux de la forêt qui sont venus acclamer. Donc, faut pas. Dieu, tout ce qu'on fait, la fête, là, ce n'est pas ça le mariage. Je vois des gens, c'est-à-dire, tu en as besoin. Mais quand vous voyez des personnes venues plaider pour leur mariage, tu sens qu'ils sont concentrés pour réussir la fête du mariage. Maintenant, ce qui va arriver après, on verra. On dit, il faut réussir. Il y a 10 000 parents qui arrivent. Mais tes parents, ils vont manger, ils vont partir à la maison. Tu vis. Comment? Comment tu assumes ta responsabilité d'homme? Ton devoir, comment tu couvres tes enfants? Comment tu couvres ta femme?
Non, on va faire ça. Il faut ici. Il faut que tu aies telle chaussure. Mais Dieu s'en fout. La chaussure ne va pas vous sauver. Donc, je rêve mariage, mais je ne rêve pas épouse. Je ne rêve pas mari. Ce n'est pas une bonne manière de préparer l'attente du mariage. Si ton désir de longue attente, c'est le mariage, ce que tu dois rêver, ce à quoi tu dois penser à couvrir, à protéger, ce n'est pas la fête. Parce que se marier, c'est une responsabilité. Ce n'est pas la bénédiction. Oh, je suis béni, je suis marié. Tu crois que c'est ce que tu appelles bénédiction? C'est pas ça. Donc quand tu vois le mariage de ta copine, tu es frustré. Et quand mon jour va arriver, quand mon jour... Non, non. C'est là, c'est... Quand tu seras femme, quel type de femme seras-tu? Quel type d'épouse seras-tu? Est-ce que... Maintenant, tu parles beaucoup là. Non, non, sérieux, hein? Là, tu bavardes. Mais est-ce que c'est pas, si tu n'es pas en train d'exposer ton couple, est-ce que tu ne vas pas créer des, tu vas pas mettre en danger ta famille? Se préparer à la gloire. Si ma gloire que j'attends, c'est la gloire du mariage, je prédispose mon esprit pour être une bonne épouse. Alors mes prières, c'est quoi? Seigneur, que dois-je faire pour m'améliorer, pour être une bonne femme? Comment est-ce que je pourrais faire plaisir à cet homme? Comment est-ce que je pourrais le conduire sur le chemin de son destin? Et le mari qui veut te marier, on ne se marie pas juste pour le lit. Hey, je ne me maîtrise pas. Il faut que je me marie pour ne pas pécher. Non, non. Si tu as un problème de contenance, tu as besoin d'une délivrance. Pas de te marier. Faut une délivrance. Est-ce que tu t'apprêtes, après ce désert de longue attente de célibat, est-ce que tu t'apprêtes à être un mari, un homme qui prend soin de sa femme et qui prépare l'avènement de ses enfants, qui réfléchit qu'est-ce qu'ils seront, comment je vais les protéger, comment je les mettrai à l'école? Est-ce que tu penses, est-ce que tu élargis ta vision? Alléluia. Mais il faut penser en termes de responsabilité. La responsabilité. Je suis responsable. Je vais couvrir. Je couvre mon mari, je couvre mes enfants. C'est pareil dans tout. Dans le travail, dans la vie professionnelle, tout cela. Je veux travailler. Vous savez, Dieu ne cherche pas le travail, le fait d'aller au travail. Tu dis, moi dans mon rêve, je rêve que je vais bâtir une école. Ce n'est pas le fait d'avoir le titre de l'école qui intéresse Dieu. C'est que l'école, ça signifie pour Dieu que je vais former des enfants et je vais les amener à réussir. C'est ça l'école pour Dieu. C'est l'éducation que tu vas fournir. Alors ta responsabilité, ce n'est pas juste d'avoir les bâtiments et d'avoir ton agrément. Le sens de la responsabilité est important avant que Dieu ne donne une gloire. Toute gloire qui arrive nécessite une responsabilité. Je vais rendre compte de ce qu'on m'a donné. Je vais rendre compte à Dieu. Je devrais rendre compte à la société, mais rendre compte à Dieu. Et je dois penser à cela. Mon but, en fait, je n'ai pas rêvé d'avoir juste un bâtiment. Mais il faut rêver comment on va encadrer les gens. Comment est-ce qu'on peut améliorer les gens? Comment est-ce qu'on peut amener les gens au Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux? Parce que même si tu as le travail et tu fais mal le travail, vous savez, il y en a qui sont préparés juste à avoir du travail, mais ils ne se sont pas préparés à être excellents dans leur travail. Tu rêves, moi je vais finir mon BTS comptable, je veux être comptable. Élargir, préparer, ce n'est pas chercher à ce qu'on t'embauche. C'est quand tu vas travailler, ta responsabilité, c'est de faire avancer la boîte. C'est d'améliorer la comptabilité. C'est d'améliorer le travail. Il faut que ton arrivée dans quoi que toute bénédiction qui arrive dans ta vie soit pour toi aussi, comment dirais-je, que toi tu deviennes une source de bénédiction pour ceux que tu auras à toucher avec cette bénédiction. Donc tu ne réfléchis pas en thème, j'ai été embauché. Certes, je vais être embauché, mais je veux que le travail soit bien fait. Souvent, quand vous regardez les gens, vous avez quelquefois beaucoup de médiocrité dans ce que les gens font. Parce qu'ils ne s'y sont pas, ils ne se sont pas préparés. Les gens, on ne travaille pas bien. Ce matin même, je me plaignais. Et ça m'a fallu me mettre en état. J'ai dit, j'arrive. J'envoie la chemise. J'envoie ma chemise au pressing. Ils ont bien plié comme ça pour me ramener. J'ouvre. Ce n'est pas repassé. Ou bien ils ont mal repassé. Bon. Donc j'ai dit, je ne vais plus aller dans ce pressing. Donc tous les clients qui vont agir comme ça vont faire tomber le pressing. Peut-être que celui qui repasse là, peut-être que c'est un frère d'une église. Il a jeûné et prié pour avoir du travail. Quand on l'a pris, gloire à Dieu, tu es vivant. J'ai eu du travail. Je travaille dans un pressing. Et il est arrivé pour, parce qu'il est pressé, on ne sait pas pourquoi. Il ne fait pas bien. C'est-à-dire, la finalité, il s'est juste préparé à être embauché. Mais être excellent dans son travail, ce n'est pas son truc. Alors, peut-être que c'est un frère, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de frères dans la ville. Donc, il repasse, il fait, puis il plie. Les gars vont se débrouiller à la maison. Mais, quand moi, je ne vais plus venir au pressing et que les gens vont plus venir, que la boîte va fermer, toi, tu seras dans la rue. Tu vas dire, c'est une épreuve. Mais ce n'est pas une épreuve, tu ne t'es pas préparé à l'exaucement. Tu ne t'es pas préparé à l'exaucement. Tu ne t'es pas préparé. Tu as cru que l'exaucement, c'est que tu trouves du travail. Pourquoi Dieu te va tenir du travail pour le plaisir du travail? Si on te fait travailler dans un pressing, qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est que tout habit qui passera par toi soit le plus bel habit, le meilleur traitement possible. Parce que tu reflètes la gloire de Dieu. Donc, se préparer à manifester la gloire, c'est se préparer à être excellent dans tout ce qu'on fait. Couvrir la dimension qu'on voit. On doit faire donner le meilleur. C'est une responsabilité. Dieu n'appelle pas à un poste. Et je l'ai plusieurs fois dit ici. Dieu n'est pas intimidé par les positions. Et je vous ai lu celui 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Où le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit dans sa parole. Il dit. Si quelqu'un, on peut mettre à l'écran. 1 Timothée 3 1. Si quelqu'un aspire. Amen. À la charge d'évêque. Il désire une œuvre excellente. Et je vous l'ai dit, je ramène ceci. Dieu ne dit pas aux gens si quelqu'un aspire à être évêque. Si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque. Évêque, c'est un ancien. La charge de l'évêque, c'est le travail de l'ancien. Il dit, si tu aspires au travail, pas au poste, il ne faut pas chercher, quand tu rêves que tu seras un jour DG, il ne faut pas rêver au titre là. Élargis l'espace de ta tente. C'est faire le travail, c'est être un excellent travailleur. Dieu ne veut pas que tu aspires à être DG, mais que tu aspires à la charge du DG. Viens l'écrire, j'ai rêvé de quoi? J'ai élargi l'espace de ma tente en politique, je serai maire. Dieu ne veut pas que tu sois maire. Dieu veut que tu fasses la charge de maire. Le poste, c'est juste un vêtement qu'on vient mettre sur un fardeau. C'est quoi un maire? Un maire, il veut à ce que la ville soit propre. C'est qui que Dieu appelle? Comment Dieu va t'élever pour accomplir? Tu as prié, on t'a dit que tu allais être maire. Qu'est-ce qu'il fait? Et tu attends depuis là l'accomplissement de la promesse. Quand est-ce que je serai maire? Quand est-ce que je serai maire? Dieu dit, moi aussi je t'attends. Qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Le maire fait à faire quoi? Entre autres, il doit veiller à la propreté de la ville. Donc, la promesse, c'est je serai maire. L'organisation de la longue attente, c'est que avant d'être maire, je m'occupe de la charge du maire. Je commence à moi-même nettoyer la ville sans qu'on m'ait donné le titre. C'est ce qu'on appelle la charge 2. Quelqu'un me suit? Donc, dans mon quartier, parce que je ne peux pas aller dans tout Abidjan, j'organise les gens pour qu'on les nettoie, pour que notre quartier soit propre. Et c'est parce que tu commences à te préparer à t'occuper de la charge que tu te prédisposes progressivement à aller là. C'est parce que tu commences à réfléchir. Si je prends un enfant dans ma classe, je veux l'amener à devenir un meilleur élève. En fait, c'est le travail, la réflexion, ce qu'on appelle la couverture ici, du travail excellent qui va déployer encore ton intelligence et t'amener à mieux faire tout ce que tu as à faire. On a une responsabilité en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que travailleur. Tout ce qu'on attend. La gloire de Dieu va te visiter. Elle va venir avec des choses. Mais ce cas, ce avec quoi elle va venir, à ça est rattachée une couverture. Et rattacher une responsabilité. Est-ce que tu t'y prépares? Est-ce que tu as préparé ton esprit à cela? C'est cela élargit l'espace de sa tente. C'est cela déploie tes couvertures. Vois grand, déploie les couvertures. La tente va loin, mais réfléchis à comment tu vas couvrir l'espace de la tente. Réfléchis à cela. Pense-y. Prépare-toi. Rends-toi meilleur. Prépare-toi. Amen. Si je veux ouvrir partout, il faut que je sois capable de le faire, capable de gérer. Pense-y. Mets-le dans ton esprit et prie par rapport à cela. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. On va demander à Dieu de nous préparer à la gloire, de nous préparer à la manifestation de la gloire. Je ne sais pas, elle va venir te visiter dans l'église, c'est vrai, avec l'onction, la présence, la puissance, mais elle va avoir une incidence et une action sur ton quotidien, sur ta vie de tous les jours. Et à ce niveau, tu dois avoir une vision. Une vision pour ce que tu sais, pour lequel tu attends la main et l'intervention de Dieu. Ton désir de longue attente, parle à Dieu, prie le Seigneur maintenant. Ton désir de longue attente concerne-t-il l'arrivée d'un enfant? Attends-tu un enfant? Attends-tu le mariage? Attends-tu le travail? Attends-tu une œuvre, le démarrage d'une œuvre, d'une vision, d'une église? Es-tu dans l'attente du démarrage des programmes d'évangélisation? Es-tu dans l'attente de la promesse de produire des champs? Élargis l'espace de ta tente. Demande au Seigneur, que veux-tu faire avec ce ministère de louange que tu me donnes? Où dois-je aller? Qu'est-ce que tu veux que j'atteigne avec cela? Où on part avec ce fardeau? Et au fur et à mesure, Dieu va te le montrer. Deuxième chose, couvrir la charge, couvrir la vision. Toute élévation nécessite une responsabilité. Il faut commencer à y penser. Si tu es chante, ne pas chanter juste pour chanter, mais si tu es chante, comment Seigneur je pourrais faire mieux ce que j'ai à faire? Conduire les gens dans ta présence. Je dois penser à la charge du poste auquel je rêve. Je dois penser, je dois prier, méditer par rapport à la charge. J'attends le mariage. C'est quoi la charge qui est attachée au mariage? Je rêve enfant. Quelle est la charge qui est attachée? Dieu ne dit pas, j'aspire à être mère, je veux être mère, je veux être maman, je veux être maman, je veux être maman. Mais à maman, il y a une charge. Il y a une charge qui est attachée au fait d'être maman. Il y a une charge qui est attachée au fait d'être papa. Il y a une charge qui est attachée au fait d'avoir une entreprise, une multinationale. Il y a une charge qui va avec. Ne vois pas seulement les bureaux partout, mais vois la charge aussi qui est attachée. Et laisse le Saint-Esprit encore élargir ta couverture, élargir ta couverture, élargir tes compétences, élargir la sphère avec laquelle tu pourras couvrir cette charge. Qu'il en soit ainsi dans nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous préparons l'avènement du Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Que notre Seigneur soit béni. Alléluia.
Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message. Car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Mohamed Sanogo, tels que la mentalité des vainqueurs, retrouver son identité, sont à votre entière disposition. Contactez-nous au 22 41 29 80 ou au 02 61 30 63 ou écrivez-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous vous invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com. Merci et à très bientôt.